Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
C'est l'heure de votre rendez-vous avec la vie politique en France. Voici Dimanche politique.
Philippe Le Caplin.
Avec Fanny Blechner, ce que disent les uns et les autres. Et nous décrypterons cette parole avec un politologue. Ce soir, Thierry Vedel. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur au CNRS et au Centre de recherche politique de Sciences Po.
J'ai décidé aujourd'hui de présenter ma candidature pour cette élection à la mairie de Paris. J'y vais avec cœur, avec engagement, avec sérieux, avec détermination. J'y vais pour gagner.
C'est donc elle, c'est Agnès Buzyn qui sera candidate à la mairie de Paris pour La République En Marche. Elle remplace Benjamin Griveaux. L'hypothèse, l'option, la possibilité est devenue donc une certitude après bien des heures de doute et de suspense. C'est officiel depuis maintenant le milieu de l'après-midi et depuis, bien sûr, les réactions vont bon train, Fanny.
Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, d'abord, avant même l'annonce, s'était dit favorable à cette candidature. C'était ce midi sur France 3.
À Paris, on a besoin d'un nouvel élan, on a besoin d'un plan B qui peut être un plan B Buzyn, parce qu'un plan B Buzyn, c'est aussi un plan B bienveillance. Agnès Buzyn, c'est une femme de très grand talent et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humanité. Et ça manque beaucoup dans cette campagne à Paris.
Il y a un avis évidemment partagé dans la majorité. Écoutez la réaction de Bruno Ketel, député LREM de l'Eure sur BFM.
Je crois sincèrement que c'est une très bonne tête de liste qui est annoncée en cette fin de journée. Agnès Buzyn est parisienne, elle aime cette ville, elle y vit, elle y a travaillé des décennies. Elle est aujourd'hui ministre de la République qui a fait très clairement état de ses compétences et de son sens de l'intérêt général. Je crois que c'est un excellent choix.
La République En Marche donc dit son enthousiasme à l'annonce de la candidature d'Agnès Buzyn avec un mot d'ordre, l'unité face à Rachida Dati et Anne Hidalgo, un aspect indispensable pour le patron des députés LREM, Gilles Legendre.
Est-ce que nous sommes capables d'empêcher ce duo, ce duel, ce match? La réponse est oui, à une condition, que nous mettions fin à nos divisions.
Dans les rangs de l'opposition, en revanche, les critiques vont bon train. Le porte-parole du Parti communiste, Yann Brossa, est surtout étonné de ce choix.
C'est une désignation qui est assez étrange, puisque vendredi dernier, c'était il y a deux jours, Madame Buzyn expliquait qu'elle n'avait pas le temps d'être candidate ni à la mairie de Paris, ni même, disait-elle, à la mairie du 15e arrondissement, puisqu'à l'époque, il en avait été question, puisqu'elle expliquait qu'elle était accaparée par les dossiers de santé. Donc tout ça donne l'impression qu'au fond, elle est candidate, mais qu'elle est candidate à reculons. Et je ne pense pas que ce soit un très bon signal pour les Parisiens qui attendent d'avoir un maire qui soit pleinement engagé.
Interrogé sur BFM, Jean-Luc Mélenchon va plus loin. Il estime que les jeux sont faits.
Je crois qu'elle vient pour éteindre la lumière et fermer la boutique, parce que la campagne de La République En Marche à Paris est terminée. Pourquoi? Parce que Madame Buzyn représente ce que des millions de gens dans ce pays, quelles que soient leurs opinions politiques, ne peuvent plus approuver. C'est la destruction de l'hôpital public et de tout ce qui va avec.
Toujours dans les rangs de la France insoumise, Danielle Simonet, candidate du parti à la mairie de Paris sur LCI, précise les critiques auxquelles Agnès Buzyn a déjà été exposée en tant que ministre de la Santé.
Je pense que les Parisiennes et les Parisiens comprennent bien qu'elle n'a pas d'enthousiasme dans cette bataille et leur bulletin de vote devra à la fois sanctionner celle qui est responsable directement de l'aggravation de la situation de la santé publique en France et de la politique rétrograde de ce gouvernement.
Agnès Buzyn a fait savoir qu'elle remettrait sa démission en tant que ministre dès ce soir, Édouard Philippe.
Résumons, Thierry Vedel. Agnès Buzyn présente plusieurs avantages. Elle est connue, elle est une femme, elle pourrait donner un second souffle à la campagne de La République En Marche. Repassons tout cela en revue. D'abord, ce profil national. C'est quelqu'un d'important, un ministre
voilà,
du gouvernement.
Puisque l'une des difficultés pour se lancer en campagne aussi rapidement et avec si peu de temps, hein, il reste seulement un mois, c'est quand même d'avoir une personnalité qui est connue. Donc elle a la notoriété et ça c'est en effet un bon point. L'autre aspect, en effet, vous l'avez souligné, le fait qu'elle soit une femme, c'est toujours quelque chose qui est apprécié positivement.
Hein, surtout pour renouveler. Face à deux autres femmes, Anne Hidalgo et Rachida Dati.
Et en tout cas, bon, ça atteste du soutien souci de renouvellement de la vie politique. Alors ensuite, il y a quelque chose qui peut être à double versant, c'est qu'elle vient de la société civile. Alors on peut voir ça comme un avantage, dans le sens où elle n'est pas complètement une politicienne qui est impliquée dans les jeux politiques. Mais d'un autre côté, en même temps, c'est vrai que, et c'était rappelé dans votre extrait sonore, qu'elle était ministre de la Santé et que c'est vrai qu'il y a depuis plus d'un an une crise assez forte dans les milieux hospitaliers.
Redonner des couleurs à La République En Marche également, hein, sachant que fin janvier, le parti présidentiel emmené par Benjamin Griveaux n'était crédité que de 16% d'intention de vote, ce qui le plaçait en troisième position.
Alors c'est vrai, et en même temps il faut faire très attention à la spécificité du mode de scrutin à Paris. Alors d'abord il y a 17 scrutins, hein, puisque à Paris il y a une situation un petit peu particulière, on vote en deux temps, d'abord on élu des conseillers qui eux-mêmes vont élire le maire. Donc il y a 17 scrutins, donc il faut gagner en fait 17 arrondissements, et c'est pas suffisant d'être en tête au niveau de l'ensemble de Paris, hein. Ça c'est la première chose. Et comme dans toutes les autres villes de France, pour les municipales, il peut y avoir des fusions de listes entre les deux tours. Et ça c'est très important pour la liste République En Marche, parce qu'ils sont dans une position centriste, et ce sont probablement eux, avec peut-être les écolos, qui ont le plus de possibilités de manœuvre et d'alliance entre les deux tours.
Est-ce que ce n'est pas trop tard, le premier tour de la municipale, c'est dans un mois, dans 29 jours précisément. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Est-ce qu'il y a d'autres cas dans l'histoire politique où une campagne électorale s'est déroulée en mode blitzkrieg, si je veux dire, guerre éclair?
Il y en a un très très célèbre, mais ça concernait l'élection présidentielle, c'est l'élection de 1974, après le décès du président Pompidou. Là, on a eu une campagne express. Voilà, il faut aller très vite. Ceci dit, là, on change seulement la tête de liste, hein. Donc je pense que les équipes, les candidats qui étaient prévus pour chacun des arrondissements vont rester probablement les mêmes. Alors, il se pose quand même, est-ce qu'on va garder les mêmes thèmes de campagne exactement? On sait que Benjamin Griveaux avait pris parfois des thématiques un petit peu originales. Est-ce que ça va être dans le même sens? Peut-être il y aura des petites inflexions.
Oui, parce que Agnès Buzyn arrive alors que tout est déjà fait. Les têtes de liste sont désignées, les tracts sont imprimés, le programme a déjà été communiqué. Est-ce que vous diriez que finalement, c'est juste une candidature d'image?
Non, enfin, c'est très compliqué cette question, hein, parce que l'image joue toujours dans le choix des électeurs. Je pense que ce qui reste fondamental quand même, c'est l'attachement à un courant politique. Sauf que, comme on sait, pour Paris, la situation est compliquée quand on est proche des macronistes, puisqu'on a au moins deux candidats en lice.
Tout à l'heure, on le disait, Agnès Buzyn va démissionner de son poste de ministre de la Santé. En pleine gestion de la crise du coronavirus, il y a aussi la réforme des retraites et puis la crise hospitalière. Pourquoi partir alors que d'autres, le Premier ministre, hein, au premier chef, qui est lui aussi candidat au municipal, ou encore Gérald Darmanin, eux, restent au gouvernement?
Alors, rappelons d'abord qu'il y a une loi sur le cumul des mandats, mais que cette loi ne concerne que les élus. C'est-à-dire, par exemple, un parlementaire ne peut pas être en même temps dans l'exécutif d'une collectivité territoriale. Ça ne concerne pas les ministres. Un ministre peut se présenter aux élections municipales et ensuite même continuer à être maire. Sauf qu'aujourd'hui, beaucoup de citoyens considèrent que c'est pas possible, qu'il n'est pas possible de cumuler des fonctions aussi importantes. Donc, Agnès Buzyn, elle, a choisi de démissionner immédiatement. C'est sans doute pour prouver qu'elle veut s'impliquer véritablement dans la campagne et qu'elle est une vraie candidate et pas seulement une candidate virtuelle.
Thierry Vedel du Cevipof. Alors si Agnès Buzyn se retrouve par défaut candidate à la mairie de Paris, c'est parce que Benjamin Griveaux a jeté l'éponge après la diffusion de vidéos intimes sur Internet, vidéos qu'il avait tournées lui-même et qui n'étaient pas adressées à son épouse. Il a donc choisi de renoncer pour préserver sa famille face à ce qu'il a appelé des attaques ignobles, mettant en cause sa vie privée. Fanny, cette classe politique a été unanime pour le soutenir.
Oui, d'abord les autres candidats pour la municipale à Paris. Anne Hidalgo a très vite appelé au respect de la vie privée. Cédric Villani a lui dénoncé une attaque indigne. Parmi les premiers à réagir aussi, Jean-Luc Mélenchon, qui a estimé que la publication d'images intimes pour détruire un adversaire était odieuse. À Marine Le Pen, elle s'est demandé s'il n'avait pas été victime d'un coup monté. Bien sûr, du côté de la majorité, c'est l'indignation qui a dominé, à l'image du patron des députés LREM, Gilles Legendre, invité du grand jury sur RTL aujourd'hui. Il a rappelé l'importance de ne pas faire intervenir ce genre d'informations dans le débat public.
Je vois parfaitement le risque que nous encourons tous. C'est de dire, après tout, ces politiques, ils doivent être exemplaires. Je m'inscris en faux contre cette tentation. Nous n'avons qu'un seul refuge, c'est une cloison totalement étanche entre la sphère privée, la sphère publique et légale.
Faute de quoi, pour le député européen écologiste Yannick Jadot, le danger est grand.
Qu'on voit notre démocratie attaquée à travers une sorte de confusion permanente ou de mélange entre une forme de puritanisme, de voyeurisme, de délation. Tout ça, aujourd'hui, forme un combo détestable avec un effet d'accélération incroyable du fait des réseaux sociaux. Résumer le débat politique au comportement des uns et des autres en matière de vie privée, c'est le pire qu'on peut imaginer.
Et Yannick Jadot s'exprimait ce matin sur France Inter. Alors, Benjamin Griveaux a porté plainte pour atteinte à l'intimité de la vie privée. Une enquête a été ouverte et l'artiste russe Piotr Pavlensky a été placé en garde à vue dans cette affaire ce dimanche. Pour rappel, il revendique la diffusion de la vidéo en question et expliquait ses motivations ce vendredi sur France 3.
Benjamin Griveaux est un candidat qui a lancé sa campagne sur d'énormes mensonges, avec une hypocrisie exécrable. Il a lancé une campagne dans laquelle il utilise sa femme, ses enfants, pour envoyer une image politique qui le montre comme une icône pour tous les maris et les pères de Paris.
Juan Branco, l'avocat proche de Piotr Pavlensky, ne pourra pas défendre l'artiste russe dans le cadre de cette enquête précisément, mais il avait assuré sur le site du Figaro qu'il s'agissait d'un geste politique.
Il considérait qu'il y avait une tartifferie très forte de la part de Benjamin Griveaux quant à ses discours et son utilisation de son image privée dans des médias comme Gala, Closer, avec la Dominique Marchand d'un côté, et de l'autre côté, une attitude qui n'avait rien à voir avec les mots qu'il utilisait de fidélité, de famille, etc. Et qu'il considérait que dès le moment que Benjamin Griveaux avait joué à ce jeu, il s'exposait à ses risques.
En attendant, Piotr Pavlensky lui aussi s'expose à des risques. Il pourrait être poursuivi sur la base du revenge porn ou vengeance pornographique en français, une pratique condamnée depuis 2016 dans l'Hexagone.
Thierry Bédel, il est question de l'hypocrisie d'un homme politique faisant campagne en mettant en avant les valeurs familiales traditionnelles. Ça rappelle un peu l'affaire Lewinsky qui a ébranlé Bill Clinton. Y a-t-il une américanisation de la vie politique française?
Alors c'est vrai qu'en France, on est très attaché à cette séparation entre la sphère publique et la sphère privé, en politique, mais aussi, par exemple, dans le domaine religieux. Voilà. Et on a tendance parfois à se moquer un petit peu de la conception américaine en considérant que c'est un dévoiement de la démocratie. Alors, ceci dit, il faut rappeler quand même l'idée de la conception américaine. C'est que les vertus et les vices privés renseignent sur la capacité d'une personne à exercer des fonctions publiques. Donc, c'est une sorte de mesure de la capacité à bien diriger un pays. Et c'est un petit peu parfois la question qu'on peut se poser, quel que soit ce qu'on a fait, quoi. C'est-à-dire, on a quand même un homme politique de premier plan, là, qui a pris des risques.
Oui, il a pris le risque d'être vulnérable, alors que ces gens-là savent très bien ce que sont les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui communiquent avec des messageries cryptées, Telegram notamment. Et qui commettent donc des imprudences.
Tout à fait, c'est ce qu'on peut se demander. Et on sait que depuis longtemps, et bien avant les réseaux sociaux, que c'est une pratique qui est utilisée pour déstabiliser, fragiliser certaines personnes qui ont des responsabilités. Par exemple, dans la diplomatie, c'est ce qu'on a fait à la période de la guerre froide. Donc lorsqu'en effet, on se présente à un mandat très important, qu'on peut être... peut devenir potentiellement maire de Paris, signer des contrats, passer des marchés publics, on doit être prudent, probablement.
Un petit peu d'histoire, malgré leurs nombreuses histoires extra-conjugales, des présidents comme François Mitterrand et Jacques Chirac n'ont jamais été confrontés à ce genre d'indiscrétion, et ça ne leur a pas coûté leur poste.
Alors c'est vrai, on revient un petit peu à la pratique française, qui est d'essayer le plus possible de faire une frontière entre le débat public et puis d'autre part la vie privée. Et en effet, la presse, si vous citez le cas de Mitterrand, l'avait observé pendant très très longtemps et était assez muette. Mais on a vu aussi récemment que la presse parfois va... s'immiscer dans la vie privée, par exemple du président Hollande, en faisant des photos de sa visite à son actuelle compagne. Donc on voit que parfois... Et puis les politiques eux-mêmes font des entorses à ce principe. Et c'est ce qui a été rappelé dans votre extrait sonore pour Benjamin Griveaux, c'est-à-dire qu'il s'est présenté dans plusieurs publications, et Paris Match notamment, en famille, oui. Voilà.
Vous écoutez Dimanche Politique sur RFI.
Philippe Le Caplain.
Demain, les députés examineront en séance plénière la réforme des retraites. Et pour marquer le coup et redire une énième fois leur opposition, 5 syndicats appellent à une journée morte dans les transports en commun. Sachant aussi que jeudi prochain, ce sera la 10e journée interprofessionnelle de grève et de manifestation contre le projet. Autant dire que l'on n'a pas fini de parler de cette réforme. Et Fanny, beaucoup en parlent donc dès aujourd'hui.
Et c'est surtout un possible recours au 49.3 qui est dans toutes les bouches. Pour rappel, la France Insoumise a déposé à elle seule 23 000 amendements dans le but de faire obstruction à cette réforme des retraites. L'article 49.3 fourni par la Constitution permettrait donc une adoption sans vote. Pour l'instant, la décision n'a pas été prise, assure Gilles Legendre, président LREM à l'Assemblée.
Rien n'est exclu. La Constitution donne des armes pour que le fonctionnement démocratique, c'est-à-dire respectueux aussi des droits de l'opposition, fonctionne normalement. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que précisément, ce serait me mettre tout de suite au même niveau que nos oppositions, c'est-à-dire sur les questions de procédure, alors que ce que nous souhaitons, nous, c'est un débat sur le fond.
Pourtant, Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, y semble plutôt favorable.
On peut peut-être faire 3, peut-être faire 4, mais n'oublions pas qu'après on ira au Sénat, que ça reviendra en deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Les retraites, nous en parlerons jusqu'au mois de juin.
Donc le 49.3 est toujours sur la table.
Temps de dérouler. Mais je crois que le gouvernement l'exclut. Moi,
vous,
je n'y suis pas opposé, parce que si le Parlement a l'intention de s'autodétruire en créant un écran de fumée devant le vrai débat, eh ben dans ce cas-là, il faudra qu'on en sorte par le haut.
À l'inverse, Valérie Rabault, députée et présidente du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, estime qu'une telle décision serait catastrophique.
Vous vous rendez compte? À chaque fois que les 49.3 étaient utilisés précédemment, notamment par Michel Rocard, c'était sur des sujets vraiment très limités. Là, on parle de tous les Français. Si ce 49.3 était activé, ce serait vraiment un avis de désaveu vis-à-vis du gouvernement et du président de la République.
Laurent Berger dit Laurent ce Berger... serait du délire.
Mais bien sûr, ce serait du délire. Ce serait du délire.
Valérie Rabault qui s'exprimait sur Europe 1 ce dimanche.
Thierry Vedel, c'est donc le vrai début des hostilités à l'Assemblée. 15 jours de débat. La majorité compte défendre un système plus solidaire. La gauche torpillait un projet injuste à coup d'amendement. Et la droite incarnait une troisième voie. Donc on va avoir là droit à une bataille parlementaire pendant plus de 2 semaines.
Personne ne sait vraiment ce qui va se passer, hein, parce que en effet, alors chacun brandit finalement la Constitution ou les règles de la démocratie, hein, puisque en effet il y a cette possibilité. S'il y a trop d'amendements, ça va bloquer véritablement le débat, et donc en effet le gouvernement peut être tenté de recourir à cette procédure qui lui permet de faire adopter une loi sans le vote de l'Assemblée. Mais en même temps, les parlementaires ont un droit d'amendement. Alors peut-être il est dévoyé, mais c'est une arme qui peut être utilisée et qui a été utilisée à certaines reprises dans le passé. Donc on est dans une situation un peu bloquée. Moi j'ai l'impression un petit peu que personne ne sort gagnant, hein, de toute façon de cet épisode, parce que c'est un petit peu, déjà on l'a vu avec les grèves, hein, c'est finalement l'ensemble de la classe politique qui est considérée comme ne faisant pas son travail par beaucoup de citoyens. On a vu ça après les grèves où ni les syndicats ni le gouvernement ne sont sortis vainqueurs, et j'ai l'impression que c'est encore le cas.
Et ça laisserait des traces dans l'électorat qui a voté Macron à la présidentielle.
Voilà, parce qu'en effet quand même ce qui s'est passé avec cette réforme des retraites, c'est qu'au départ on avait l'impression qu'elle ne concernait qu'en effet des secteurs particuliers, les transports et la SNCF. Et puis finalement, la contestation et la mobilisation s'est étendue à d'autres secteurs, y compris des secteurs qu'on n'attendait pas, les avocats, les professions libérales de la santé, et qui en effet, comme vous le suggérez,
des classes sociales supérieures.
Voilà, classe
et
sociale supérieure,
qui tiennent les ronds-points.
Voilà, pas des gilets jaunes, et qui sont peut-être plus susceptibles de voter pour La République En Marche que d'autres catégories de la population.
Merci pour ces analyses et commentaires, Thierry Vedel. Je rappelle que vous êtes politologue, chercheur au CNRS et au Centre de Recherche Politique de Sciences Po. La politique, encore, sur Radio France Internationale. Ce sera demain matin Marie-Christine Verdier-Jouclat, députée La République En Marche du Tarn et porte-parole du groupe à l'Assemblée Nationale qui, bien évidemment, commentera la désignation d'Agnès Buzyn pour la candidature à la mairie de Paris. À noter aussi que Mardi Politique recevra Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. C'était Dimanche Politique sur Radio France Internationale.